Le journal est présenté par Claire Ceccaglini. Bonjour Claire.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Première nuit en garde à vue pour les 7 suspects dans l'attaque d'hier à Paris pour un cauchemar qui a recommencé en plein jour. Deux journalistes ont été gravement blessés en bas de l'ancien immeuble de Charlie Hebdo. Nous avons sous-évalué la menace, a reconnu hier Gérald Darmanin. Une soirée de sursis pour les cafetiers et les restaurateurs de la métropole d'Aix-Marseille. Hier, ils s'étaient mobilisés contre le durcissement des mesures sanitaires. Manifestation qui illustre le dialogue de sourd entre territoire et exécutif, selon le politologue Pascal Perrineau.
Nous en parlions il y a un instant, l'incendie de Lubrizol. Un an après, manifestation cet après-midi à Rouen, des indemnités ont été versées, mais elles sont loin de panser les plaies.
Aux États-Unis, Donald Trump désignera ce soir une nouvelle juge à la Cour suprême. La conservatrice Amy Coney Barrett est donnée favorite. Et puis après le journal, Caroline, vous recevrez Rassam Salamé.
Rassam Salamé, en effet, qui est professeur émérite à Sciences Po, qui fut ministre de la Culture au Liban, conseiller du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, envoyé spécial du Conseil de sécurité des Nations Unies en Libye de 2017 à 2020. Il sera question du Liban dans le cadre de ce partenariat de France Culture avec Lima tout le week-end et il sera question des 75 ans de l'ONU.
Ils sont 7 au total à avoir passé la nuit en garde à vue à la suite de l'attaque à Paris hier. Attaque au cours de laquelle 2 journalistes de l'agence Première Ligne ont été gravement blessés. Ils travaillaient à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo. Un lieu symbolique, a rappelé le Premier ministre Jean Castex. C'est d'ailleurs à quelques mètres des portraits des victimes de la tuerie de janvier 2015 qu'a été perpétré cet acte terroriste islamiste. Les mots sont cette fois de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et les 2 premiers suspects ont été arrêté très rapidement après les fêtes et au Hetch.
Alors le premier interpellé à Bastille est considéré comme le principal suspect du sang maculé ses vêtements et va être analysé. Les choses sont bien avancées pour confondre cet auteur, a confirmé Gérald Darmanin sur France 2. Bien avancé aussi pour le motif.
Manifestement, c'est un acte de terrorisme islamiste. Alors il n'était pas connu spécifiquement des services de police pour le renseignement, pour la radicalisation. Il n'était pas fiché S, il n'était pas fiché FSPRT. Il a été arrêté il y a un mois pour avoir un port d'armes, un tournevis manifestement. Un rappel à la loi lui a été donné, il était encore mineur. On connaît encore difficilement son identité. On n'a pas de pièce d'identité. Et donc on va attendre encore quelques heures pour connaître davantage sur lui.
Devant les policiers, il a affirmé être pakistanais, né à Islamabad et âgé de 18 ans. Mais tout cela reste à confirmer. D'après Gérald Darmanin, il est arrivé sur le sol français il y a 3 ans en tant que mineur isolé. On a moins d'informations sur la seconde personne en garde à vue, interpellée à Richard Lenoir. C'est un Algérien âgé de 32 ans, arrivé en France il y a 6 ans. Il est totalement inconnu de la police française. Et puis, y a-t-il d'autres personnes impliquées? Des perquisitions ont eu lieu dans 2 domiciles présumés du principal suspect, dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis à Pantin. À la suite de cette intervention, 5 autres personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue.
Et hier soir, le ministre de l'Intérieur a reconnu ne pas avoir suffisamment mesuré la menace. La rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement ne faisait l'objet d'aucune surveillance particulière. Le principal suspect n'avait lui pas été signalé comme radicalisé, ce qui n'a rien de surprenant, estime Jean-Charles Brizard, le président du Centre d'analyse du terrorisme.
On est dans une phase, et depuis maintenant plusieurs années, où on a une menace terroriste qui est endogène, qui est protéiforme, hein, et qui est surtout largement diffuse et imprévisible. Et c'est la raison pour laquelle on a des profils aujourd'hui qui passent à l'acte, qui sont extrêmement diversifiés. Ce sont des individus qui ne sont pas nécessairement connus des services de renseignement. Ça concerne près de 60% d'ailleurs, hein, de ceux qui sont passés à l'acte sur le territoire national depuis Mohamed Merah. C'est ce qui rend la lutte antiterroriste aujourd'hui beaucoup plus difficile et le travail des services de renseignement beaucoup plus important. C'est vrai que la menace projetée est moins intense et moins probable aujourd'hui en raison de l'affaiblissement de certains nombres d'organisations, en particulier l'État islamique. Pour autant, les individus continuent à porter cette menace individuellement ou collectivement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Et le contexte, encore une fois, nous porte à penser que l'hypothèse d'actes ciblés est quelque chose qu'on ne peut plus du tout écarter aujourd'hui.
Jean-Charles Brizard avec Marie Bernardo et surtout Twitter, Charlie Hebdo a exprimé toute sa solidarité avec ses anciens voisins et collègues. Au registre des réactions politiques, cette fois, celle de l'ancien président François Hollande. L'ex-chef de l'État estime que répondre répondre à la situation ne peut se faire uniquement sur le plan sécuritaire. Ce doit être une politique qu'on voit dans toutes ses dimensions, éducation, la politique urbaine, mais aussi la sécurité et la lutte contre la radicalisation, bien sûr, a encore ajouté François Hollande.
Un geste pour tenter d'apaiser la colère qui s'est exprimée hier.
Annoncé pour ce soir, la fermeture des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille n'aura finalement lieu que demain, dimanche. Les élus ont obtenu un sursis de courte durée. Les professionnels du secteur avaient bruyamment manifesté hier matin contre la décision de fermeture complète de leur établissement pour au moins 15 jours. Et pour le politologue du Centre d'études sur la vie politique française, Pascal Perrineau, ce type de réaction n'est que le symptôme d'une fracture entre les territoires et l'exécutif.
Derrière cette affaire marseillaise, il y a en fait le reflet des rapports extrêmement difficiles qui existent depuis 2017 entre le président de la République, le pouvoir central et les collectivités locales. Le macronisme n'a pas trouvé un terrain d'entente avec ces collectivités locales et surtout dans la crise contre la pandémie, il n'arrive pas à négocier. On aurait très bien compris que le pouvoir rencontre les départements, les pouvoirs de métropole, les pouvoirs communaux dans des régions qui sont touchées par la reprise du virus et cherchent à définir avec eux une solution. Comme c'était le cas déjà en mars, les mesures semblent tomber d'en haut sans véritable concertation et même parfois information des pouvoirs locaux. Il y a là quelque chose qu'il faut radicalement changer.
Pascal Perrineau avec Isabelle Souquet. On l'a évoqué dans la demi-heure précédente dans la fabrique médiatique. Ce 26 septembre est le premier anniversaire de l'incendie de Lubrizol à Rouen. 10 tonnes de produits chimiques étaient parties en fumée. Pendant 3 semaines après la catastrophe, les agriculteurs d'une centaine de communes de Seine-Maritime ont dû jeter toute leur production. Des pertes colossales que Lubrizol a proposé d'indemniser avant la tenue d'un procès. 1200 dossiers ont été traités. Mais le traumatisme reste intact, comme l'a constaté Coralie Moreau de France Bleu Normandie.
Valérie est agricultrice dans le pays de Bray. Le micro s'allume, mais ce ne sont pas les mots, mais les larmes qui jaillissent à l'évocation de ce 26 septembre 2019.
J'en pleure encore aujourd'hui parce que c'est la première année où, avec nos ânes, on faisait le lait. Et ça nous est tombé dessus et je suis traumatisée. Je revois mon mari ouvrir le tank à lait pour faire partir le lait. Enfin, c'est des heures de travail.
Pour la perte de son lait de vache, son mari a reçu de Lubrizol à peu près ce qu'il demandait, soit environ 6000 euros. Mais Valérie, elle n'a touché que 800 euros pour son lait d'ânesse, lait qui devait être transformé en savon, commercialisé ensuite. Une perte estimée à 7000 euros.
Je n'ai pas l'habitude de dire des gros mots, mais il y a un gros foutage de gueule, quoi. Mais on ne peut pas dire non. On n'a pas de trésorerie, on ne sait même pas de quoi demain sera fait, donc on ne peut pas dire non. On prend.
Un remboursement des pertes, mais pas des heures de travail, moins encore du préjudice moral. Pour monter son dossier, Valérie a dû se faire aider d'un centre de comptabilité et son chèque lui laisse un goût amer.
On reçoit des courriers par Internet, pas de nom, on n'a que des numéros, on n'est pas dans l'humain.
Pas très loin de chez elle, cet autre agriculteur, 72 ans, sa retraite de 850 euros ne lui permet pas de vivre, alors il continue à cultiver ses légumes pour les vendre au marché. Avec l'incendie, il a perdu 2500 euros. Parce qu'il est retraité, il n'a pas eu droit à une indemnisation, d'où un profond désespoir.
J'ai fait une tentative de suicide. Pas d'argent, pas d'aide. Je me suis dit, je vais faire comment, hein ?
Aujourd'hui encore, il dit subir les conséquences de l'incendie. Au marché, les clients restent méfiants.
Les tomates, ils m'en achètent parce qu'ils savent qu'ils s'en servent. Mais tout ce qui est poireaux, tout ce qui est salade et puis tout ça... négatif. Je faisais le dimanche 250 euros, aujourd'hui je fais 110 euros.
Ces témoignages, c'est Christophe Holville de l'Union des victimes de Lubrizol qui les recueille. Il dénonce la faiblesse des indemnisations et la clause qui les accompagne et qui empêche toute réclamation future.
Certains ont été remboursés de la somme qu'ils ont demandée, tout en sachant très bien qu'on leur a acheté leur silence, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus porter plainte. Tout ça n'était pas quelque chose de bienfaisant de la part de Lubrizol.
Pour preuve, ajoute Christophe Holville, le refus de l'entreprise de communiquer le moindre chiffre.
Et cet après-midi, une manifestation est prévue devant l'usine pour réclamer toute la lumière sur cette catastrophe industrielle dont l'origine reste inconnue. Allez les filles, titraient dans les années 90 les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet dans un livre mettant en lumière les très bonnes performances scolaires des filles. C'était une révolution silencieuse qui était en train de se jouer, avaient alors diagnostiqué les deux chercheurs. Eh bien, la révolution se retrouve aujourd'hui dans les résultats de l'INSEE sur la composition des cadres. En 40 ans, le nombre de femmes cadre a été multiplié par 6, Diane Berger.
En 1982, on comptait 21% de femmes parmi les cadres. Elles sont aujourd'hui 42%. Alors, dans le même temps, le nombre d'hommes cadres a lui aussi augmenté. Ces derniers restent donc prédominants, mais la catégorie se féminise progressivement, décrit l'un des auteurs de l'étude de l'INSEE, Olivier Chardon.
L'augmentation de la part des femmes au sein des cadres, elle est régulière. Donc sur toute la période, on peut la mesurer année par année. Ce qui caractérise les emplois de cadres et de professions intellectuelles supérieures, c'est que c'est de plus en plus des emplois qui sont réservés aux diplômés du supérieur. Et justement, là, maintenant, les femmes sont plus diplômées que les hommes, donc c'est assez logique qu'elles rattrapent leur retard au sein des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Mais quand on rentre plus dans les détails, cette tendance n'est pas uniforme dans tous les secteurs. Dans la fonction publique et les professions scientifiques, les femmes sont majoritaires, par exemple en médecine, en pharmacie, dans l'enseignement au lycée. En revanche, la catégorie des ingénieurs et des cadres techniques d'entreprise reste très masculine, précise Olivier Chardon.
Comme les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes filières de formation dans le supérieur, on retrouve aussi par catégorie socio-professionnelle des disparités. On a notamment beaucoup moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs que d'hommes.
Et dans son étude, l'INSEE relève également que les cadres sont plus âgés et plus souvent en contrat à durée indéterminée que le reste de la population française.
Les explications de Diane Berger.
France Culture, il est 8h11, suite du journal. Aux États-Unis, c'est ce soir que Donald Trump a annoncé désigner une nouvelle juge à la Cour suprême.
Et il s'agit pour le président américain et candidat républicain de peser durablement sur l'équilibre de la plus haute instance judiciaire, administrative et constitutionnelle américaine. Donnée favorite, la conservatrice Amy Coney Barrett devrait remplacer la progressiste Ruth Bader Ginsburg. Son portrait avec le correspondant à Washington de Radio France, Grégory Phillips.
48 ans, mère de 7 enfants, professeure de droit brillante et réputée, mais une expérience de juge fédéral limitée. Elle a été nommée il y a 3 ans seulement par Donald Trump à la Cour d'appel de Chicago. Amy Coney Barrett est aussi une catholique fervente. Si le président l'a choisie et que sa nomination est validée par le Sénat, alors les catholiques américains compteront 6 juges à la Cour suprême alors qu'ils ne représentent que 20% de la population. Coney Barrett, enfin, est connue pour ses positions conservatrices, voire traditionnalistes. Elle est radicalement opposée à l'Obamacare, anti-avortement, même si elle est toujours restée prudente dans ses déclarations sur l'arrêt Roe versus Wade qui, en 1973, avait légalisé aux États-Unis l'interruption volontaire de grossesse. Coney Barrett est en tout cas la favorite des milieux religieux. Si Trump parvient à la nommer à la Cour suprême, ce sera pour lui un gain politique considérable, lui qui a déjà placé, avec Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, 2 magistrats conservateurs au sein de la plus haute instance juridique du pays, et ils sont nommés à vie.
Et puis justement, pour tout comprendre de l'importance de la Cour suprême aux États-Unis, rendez-vous sur notre site franceculture.fr. Journée spéciale Liban, justement, sur France Culture, en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe. À Beyrouth, la vie artistique est en sourdine depuis l'explosion du 4 août. Des galeries, des ateliers de la capitale libanaise ont notamment été détruits, lieux sur lesquels est retourné notre correspondant Aurélien Colli.
Debout dans son studio dévasté, Caroline Tabet se remémore cette journée du 4 août.
Ça a été une déflagration d'une puissance inouïe, quelque chose d'indescriptible, qui a tout soufflé en une fraction de seconde.
Blessée par des éclats de verre, cette photographe et vidéaste a perdu des tirages, des négatifs et du matériel, mais aussi un peu l'envie d'utiliser son appareil.
C'est pas évident justement de photographier, encore une fois, des destructions après tout ce qu'on a déjà vécu. Et donc je photographie presque robotiquement. Tout ça est en attente et on verra plus tard ce qui sortira de tout ça.
Beyrouth meurtri, Caroline Tabel avait déjà montré en 2012, avec des photos au flou travaillé, pour traduire les vibrations d'une capitale où les promoteurs rasaient le passé.
On sent le moment flou, le moment fouillant, comme si c'était le moment lui-même de l'explosion.
Tony Sfer a fondé en 2010 le plan B, B-E-Y, comme Beyrouth, une galerie touchée aussi par l'explosion, mais qu'il a refusé de fermer. Plus de vitrines, de portes ou de fenêtres, mais des artistes libanais réexposés dans cette nouvelle réalité.
C'est le drapeau libanais avec des traces de balles partout. Une photo de Fouad El Khoury des années 90, donc juste après la guerre. Donc des traces de balles avec des traces de l'explosion, une sorte de mise en abîme. Il semblerait que Beyrouth aime garder quand même une identité toujours blessée.
Intitulée Beyrouth, la rencontre, cette exposition est un pansement dans ces quartiers ravagés où grouillait la créativité. Mais cette vie reviendra, promet Tony Sfer, le fondateur du plan B.
Aujourd'hui, l'artiste, s'il ne saigne pas, comme un poète libanais l'a dit un jour, il n'est pas capable de créer. On est tombé, on est au sol. et on va cicatriser et guérir.
Et dans un instant, Caroline Brouet, vous recevrez justement un ancien ministre libanais, ancien diplomate, Hassan Salamé. Et concernant l'attaque rue Nicolas Appert dont on vous parlait au début du journal, le deuxième interpellé a été relâché ce matin, mais un autre homme a lui été placé en garde à vue. La météo, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, toujours en vigilance orange, pluie, inondation. Il pleuvra aussi ce matin sur la Bretagne, le Nord, les frontières de l'Est et un quart sud-ouest, sans oublier une partie du Massif central.